et bonjour à tous. Vous savez, vous, ce qui fait le bien-être des gens ? Un an plus tard, sait-on vraiment ce qui a poussé des Français sur les ronds-points ? On a entendu les revendications sur le pouvoir d'achat, sur le ras-le-bol fiscal, sur le gazole, bien sûr, et ça fait partie de l'explication. Mais ce n'est pas le premier facteur. Non, ce qui explique d'abord les gilets jaunes, nous disent trois économistes cette semaine, c'est le déclassement du lieu où l'on vit. La commune qui perd son école, son cabinet de gynéco, sa librairie et puis surtout sa supérette. Lorsque l'épicerie ferme, le bien-être des habitants diminue dans une même proportion que si le niveau de vie médian dans la ville avait baissé de 2155 euros par an. Ces communes, qui ont perdu leur supérette, ont eu trois fois plus d'événements gilets jaunes que les autres. Voilà, remarquable étude du Conseil d'analyse économique qui nous dit qu'il va falloir repenser la politique. Concentrer l'activité dans les grandes agglomérations, c'est efficace pour la croissance, mais pas pour le bien-être. Créer des hypermarchés, ça c'est efficace pour l'emploi, mais pas pour la qualité de vie. Et puis financer des solutions de mobilité ou offrir du service public via le numérique, ça ne suffira pas à rétablir l'équité. Alors la conclusion, à 2 mois des municipales, c'est que le maire est central, le bien-être local est un capital précieux et les politiques publiques qui préservent cette richesse comptent au moins autant que celles qui le créent.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Il y a les municipales et puis il y a le nouveau projet de loi de décentralisation. Ça sera cet été ou à la rentrée. On en reparlera. En attendant, on vous a mis le lien de l'étude de Claudia Sony, Kian Algan et Clément Malgouir. Oui, je donne leur nom. Sur le site dont n'arrête pas l'écho. Bienvenue, c'est donc le Mag'Écho réalisé par Coyenne Guyenne. Valentin Pérez est attaché de production. À la technique ce matin, Gilles Gaillard nous accompagne. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et ensemble ça fait quand même un paquet de monde puisque chaque samedi, vous êtes 2 344 000 auditeurs. C'est un record en 10 ans d'existence. Alors Sandrine Foulon, Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chip, qu'est-ce qu'on va dire à nos auditeurs au-delà de merci, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Merci.
On voit que les gens veulent comprendre ce qui se passe en économie. Lorsqu'il y a des grandes réformes comme celle des retraites, ça devient technique, on ne comprend plus rien. Pardon de faire aussi cette auto-promo qui s'associe à celle de l'émission, mais on voit nous que les gens qui viennent sur notre site explosent. Donc il y a une vraie volonté de comprendre. J'espère qu'on y contribue avec notre débat, nos chroniques et tout ça.
Emmanuel ?
Oui, entièrement d'accord et j'en profite alors pour dire merci évidemment à tous les auditeurs, mais merci aussi, parce qu'on n'en parle jamais, à tous nos camarades de nos rédactions respectives, dont on utilise quand même assez régulièrement les travaux et les recherches pour nourrir nos débats et qui, d'une façon ou d'une autre, contribuent au fait que l'émission soit pas si mal et que les gens l'apprécient.
La pluralité des points de vue, en effet. Sandrine, un petit mot, merci.
Oui, merci beaucoup et c'est vrai que c'est intéressant de savoir que les gens s'intéressent au travail. À l'économie.
Ma vie au boulot. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Emmanuel Le Chip.
Et vous avez commencé, Alexandra, en citant l'étude du CAE. Oui. Et on n'encouragera jamais assez les gens à dire c'est bien qu'on débatte et qu'ils nous écoutent, mais allez voir par vous-même tous ces travaux qui sont disponibles gratuitement sur le Conseil d'analyse économique, tous les think tanks, tout ça. Faites-vous votre opinion par vous-même.
Et c'est rigolo parce que là, c'est une étude quand même, c'est une super étude statistique, etc., pour parler du bien-être.
Absolument.
Finalement, on arrive à le bien-être, la qualité de vie. Donc les chiffres, c'est pas tout mauvais, les chiffres. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, Emmanuel Le Chip de BFM Business. Ce matin dans le débat, nous allons parler de l'épargne des Français. Sommes-nous de bons ou de mauvais investisseurs ? Ce sera dans une poignée de secondes. Je vous donne le reste du menu. Après les suppressions d'emplois chez Auchan, le changement de modèle de la grande distribution, il se fait dans la douleur. Les périls sont encore nombreux. Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Notre invité ce matin, c'est la PDG de Solvay. Solvay, c'est le géant mondial de la chimie. Ilham Kadri sera avec nous vers 9h45. On va parler d'industrie, d'environnement et aussi de son parcours atypique. Juste avant 10h, rendez-vous avec Sandrine Foulon. Ma vie au boulot, c'est Valentine qui vous a écrit, Sandrine.
Oui, Valentine, il y a une question qui revient souvent quand on a connu des périodes de chômage. La réforme à points, c'est mieux ou c'est moins bien ?
C'est mieux ou c'est moins bien ? Réponse juste avant 10h. À tout à l'heure, tout de suite, des questions sur ce que nous faisons de notre argent. Et d'abord, cette passion française, le livret A, on en parle ?
14 janvier 1983.
Tu sais ce qu'ils m'ont conseillé chez l'écureuil ?
Non.
Eh bien, je leur disais que je laissais de l'argent sur mon compte chèque pour garder, comme on dit, une poire pour la soif. Ils m'ont répondu, votre poire pour la soif, vous feriez mieux d'en faire un poirier, en utilisant mieux votre livret A, en y versant l'argent que vous ne dépensez pas tout de suite, à 8,50% d'intérêt, sans impôt, sans se compliquer la vie, et patati et patata. Mais je crois bien qu'ils ont raison. Ma poire pour la soif, je vais en faire un poirier.
La Caisse d'épargne écureuil, c'est le bon conseil
au bon moment.
Et patati et patata, une publicité de la Caisse d'épargne. Là, nous sommes en janvier 1983. Vous avez bien entendu, il y a 37 ans, le livret A était rémunéré à 7,5%. Ça a l'air bien mieux que ce taux de 0,5% qui rémunérera nos économies à partir du 1er février. Et Christian Chavagneux, on aurait bien tort d'y croire que c'était mieux avant.
Non, c'était vraiment pas mieux avant, parce que un taux de 7,5%, lorsque vous avez une inflation à 9,5%, ça mange les intérêts que vous touchez. Et donc vous faites 7,5 moins 9,5, ça fait moins 2 en fait. Alors qu'aujourd'hui, la rémunération ça va être 0,5, alors que l'inflation est 1,5, donc ça fait moins 1. En fait, on est mieux aujourd'hui qu'au début des années 80, même si on n'est pas bien aujourd'hui.
Emmanuel de Chypre.
Ah bah, c'est pas que c'était mieux avant, c'est que ça n'a jamais été bien. En fait, le livret A.
Ah si, quand même.
Il n'y a pas eu beaucoup de périodes dans l'histoire.
Ah si.
Où ça, à part le moment de la désinflation, notamment dans les années 80, il n'y a pas eu de moment où ça a beaucoup rapporté. Le poirier de la publicité.
Beaucoup, non, mais.
Les années 70-80, jusqu'au milieu des années 80, ça a quand même beaucoup rapporté. Il faut rappeler que le livret A, ça date de 1818, hein, quand même. Donc il y a quand même beaucoup de périodes où c'était la rémunération était supérieure à l'inflation.
Je crois qu'on peut discuter sur beaucoup, mais il y a eu quand même de longues années où le livret A rapporté.
Pas tant que ça.
Le malheur des uns quand même fait le bonheur des autres. Il faut nous rappeler à quoi ça sert le livret A. Le placement le plus populaire de France.
55 millions de souscripteurs en France, c'est un peu plus de 300 milliards à la fin de 2019, donc ça fait quand même un paquet. Faut dire quand même que 80% des sommes, c'est dans les 20% des livrets les plus remplis, donc et quand une bonne partie de la somme qui vient sur les gros livrets. Mais quand même, 40% des livrets ont moins de 150 euros. 20% entre 150 et 1500 euros, donc ça vous fait 60% de petites sommes, c'est vraiment un placement populaire. 60% des sommes vont à la Caisse des dépôts et consignations qui finance le logement social et les collectivités locales, et le reste va aux banques.
Est-ce que certains dénoncent là une spoliation du petit épargnant, des familles modestes, Emmanuel Le Chypre?
Je suis pas d'accord avec l'idée que c'est le placement préféré des Français. C'est effectivement le placement le plus répandu, mais c'est pas le placement préféré des Français. 300 milliards d'euros seulement, entre guillemets, par rapport aux 1700 milliards de l'assurance vie. Et comme Christian l'a dit, en fait, la rémunération, c'est jamais ce qui pousse les gens à mettre de l'argent sur le livret A. Prenez l'année dernière, 2019. On est quand même sur une rémunération minable de 0,75%, puisque je vous rappelle que quand vous avez le montant moyen sur votre livret A de 4800 euros, 0,75%, ça vous fait quand même la somme faramineuse de 36 euros d'intérêt chaque année, et vous avez quand même eu 14 milliards de collectes supplémentaires. En fait, le livret A, c'est une tirelire. Christian l'a dit, les sommes en moyenne sont très faibles sur la plupart des livrets. Donc c'est une tirelire, un petit pécule que vous utilisez, comme ça votre argent il dort, alors que sur votre compte courant, il comate quasiment totalement.
Bah oui.
Donc voilà, donc vous le mettez, c'est des sommes dont vous pouvez avoir besoin pour faire face à des imprévus. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui placent sur le livret A dans une perspective de vraiment gagner beaucoup d'argent.
Les économistes disent c'est liquide, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser tout de suite, c'est garanti par l'État. C'est un problème, vous avez quand même la garantie d'État et c'est défiscalisé. C'est pour ça aussi que les gens y vont.
Le vrai placement préféré des Français, c'est quand même l'assurance vie.
L'assurance vie, mais il n'y en a pas autant. 55 millions de livrets A, il y en a pas autant.
37 millions, mais c'est 1700 milliards d'euros quand même.
Alors il faut nous expliquer d'où viennent les taux quand même, parce que ça tombe pas. Et ça tombe pas du ciel le fait que le taux monte ou baisse. On nous dit, ne discutez pas, il y a une formule.
Alors depuis 2003, en fait, il y a une formule qui était fixée en 2003 pour garantir le pouvoir d'achat, donc pour être sûr que le taux de rémunération était toujours supérieur à l'inflation. Mais elle a été modifiée je ne sais pas combien de fois depuis. La dernière fois, c'était en 2017, il faut le rappeler quand même, par ce gouvernement, en août, parce que la fameuse formule dépolitisée, elle prévoyait d'augmenter en 2017 le taux de 0,75 à 1%. Et le gouvernement a dit, vous irez vous faire voir, je bloque à 0,75% pendant 2 ans, donc on est 2 ans après. Et là, on a encore une fois changé la formule. Alors maintenant, c'est une moyenne des taux de placement de court terme et de l'inflation hors tabac. Normalement, l'application de la formule, ça donnait 0,23%, et dans sa magnanimité, le gouvernement a dit non, nous allons prendre le taux plancher qu'impose la nouvelle formule à 0,5. Ça fait quand même 2 ans qu'ils nous ont plombé le passage de 0,75 à 1. Donc c'est pas une grande magnanimité. Ça fait perdre le passage de 0,75% à 0,5, 745 millions d'intérêts à tous les détenteurs de livret A.
Emmanuel.
Alors, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que...
Donc, c'est pas dépolitisé du tout.
Non, c'est pas dépolitisé du tout, parce qu'effectivement, il y a toujours la possibilité d'avoir la main sur, enfin, de prendre la main sur la formule. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un côté, effectivement, quand vous baissez le taux du livret A, vous baissez la rémunération des épargnants. Mais il faut rappeler à quoi sert quand même en partie l'argent du livret A.
Et
l'argent du livret A, il sert quand même en grande partie à financer le logement social via la Caisse des dépôts, notamment. Et donc, quand vous baissez le taux du livret A, vous baissez le taux d'intérêt auquel empruntent les bailleurs sociaux pour construire ou rénover des logements sociaux. Et là, on parle de 200 à 300 millions d'économies pour les bailleurs sociaux. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on baisse le taux du livret A, sachant qu'il y a quand même un petit tour de passe-passe, puisque vous pouvez considérer que le gouvernement a baissé les APL. Les APL, c'est donc la baisse des loyers, donc la rémunération des bailleurs sociaux, et que finalement, en baissant le taux du livret A, vous redonnez d'une main ce que vous avez pris quelque part aux bailleurs sociaux sur le dos des petits épargnants.
Ouais, la Caisse des dépôts, donc, qui gère tout ça, dit que ça va nous permettre d'économiser 317 millions d'intérêts qu'on va pas demander aux bailleurs sociaux, l'équivalent de 17 000 logements sociaux de plus. Donc on se dit, c'est vraiment super. Ouais, alors attention, les bailleurs sociaux aujourd'hui, les taux d'intérêt auxquels ils peuvent emprunter par ailleurs sont plus faibles, pratiquement et souvent peuvent être plus faibles que le taux auquel la Caisse des dépôts leur prête. Donc c'est pas vraiment une grosse avancée. On nous dit ça va leur permettre de construire plus de logements, mais ils vont les construire quand, ces logements? Ils vont les construire avec quel niveau de loyer? Parce que quand même savoir que les bailleurs sociaux, comment ils font pour rembourser leurs emprunts? C'est avec les loyers. Donc si vous baissez les loyers, vous diminuez la capacité des bailleurs sociaux de rembourser. Et puis on a quand même oublié quand même quelque chose, c'est que si 60% de l'argent va vers la Caisse des dépôts pour faire tout ça, les 40% qui restent, ils vont aux banques. Et quand les banques, elles ont moins de rémunération à donner, elles vont augmenter leurs bénéfices sur les livrets A. Quand on met ça en perspective avec le fait que la semaine dernière, vous avez des députés qui ont voté pour déréglementer les banques françaises, vous dites en ce moment, les banques, elles sont bien servies politiquement par ce gouvernement.
Et que vous avez Jean-Louis Borloo qui a tiré la sonnette d'alarme sur la panne de la construction de logements sociaux et de la rénovation urbaine.
Donc voilà qui relativise le cadeau fait aux bailleurs sociaux. Les épargnants, eux, on a compris qu'en effet, ils ne peuvent pas du tout se réjouir. Les banques, elles, peuvent se réjouir. Et ce dont on n'a pas encore parlé, c'est cet argument de Bercy pour expliquer ce choix, parce que c'en est quand même un. Donc, vous venez de le démontrer, un choix politique de baisser le taux du livret A. Et l'argument, c'est il faut orienter l'épargne des Français vers les entreprises. Alors, c'est quoi le mécanisme là? À quoi pense Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie?
Il faut lire l'interview de Bruno Le Maire dans Le Parisien, dans laquelle il annonce le fait que ça va passer de 0,75. C'est un vrai promoteur des placements financiers. Il faut placer comme ci, il faut placer comme ça. On a un nouveau produit d'assurance vie. Messieurs, dames, écoutez-moi, c'est un peu moins risqué que le précédent, c'est un peu plus risqué que celui-là. Enfin bref, il se fait le promoteur, il se fait conseiller clientèle. Bruno Le Maire, pour nous dire quoi? C'est le fameux argument du français frileux. Le français frileux, c'est celui qui garde ça, garde son épargne sur le livret A parce que c'est liquide, mais alors qu'il devrait l'investir pour financer sur les entreprises françaises. Et il est beaucoup plus frileux que le reste du monde. En fait, moi j'ai trouvé la dernière enquête de la Banque Centrale Européenne sur les comportements d'épargne des Européens. Elle nous dit quoi? Que la part des dépôts dans l'ensemble de l'épargne financière, c'est 36,4% en France, c'est plus de 44% dans le reste de la zone euro. La détention directe d'actions cotées, les entreprises qui sont cotées en bourse, c'est 9,2% de l'épargne des Français, c'est 7,1% en moyenne dans la zone euro. Et si vous prenez les chiffres de la Banque de France, elle prend le total de ce qu'elle appelle tous les produits de fonds propres, c'est-à-dire tout ce que vous utilisez de votre épargne qui va financer les entreprises. Les actions cotées, les actions non cotées, les entreprises comme ci, les entreprises comme ça. Tout ce qui va financer les actions des entreprises. C'est un tiers de l'épargne financière des ménages. Un tiers, c'est quand même pas mal. On n'est pas si frileux que ça.
Emmanuel Le Chypre, donc finalement, le français serait frileux, ouais, et adverse au risque que représentent les actions.
Faux.
C'est faux?
Non, pas du tout.
Bien sûr que si.
Mais non, pas du tout.
Je viens de le dire,
actions, je viens de démontrer. Non, mais Christian, les actions, c'est 5% seulement de l'épargne des Français.
Non, 5% c'est 9,2%
seulement de l'épargne des Français.
Non, si vous regardez, on a un problème de chiffres sur lequel on ne peut pas s'entendre.
Risque, les produits sans risque, ce qu'on appelle les produits de taux, c'est 65% des 5 000 milliards d'épargne des Français. Le reste, c'est effectivement les produits un peu plus risqués, mais les actions, c'est 5%. Et les chiffres de Christian, ils sont gonflés par quoi? Ils sont gonflés par un phénomène simple, c'est la détention d'actions par les gens qui sont propriétaires de leur entreprise, etc.
Ah non, non,
qui,
il y a, non, non, parce que Emmanuel,
qui surévalue le phénomène. Mais moi,
il y a l'assurance vie aussi, Emmanuel. Tout,
non, mais bien sûr, mais ça, c'est pas, oui, mais ça, c'est pas de la détention directe d'actions.
Ah, mais c'est quand même de la détention d'actions.
D'accord, d'action. Mais à travers les fonds, etc. Mais je veux dire, la raison simple, c'est que les Français, ils ont pas à se soucier de prendre des placements risqués ou pas. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes américain, vous n'avez pas le choix. Faut pas croire que les Américains, ils ont une passion pour la bourse. Si vous avez un ménage sur deux aux États-Unis qui a des actions, c'est parce que vous n'avez pas d'autre choix pour vous faire une retraite. Bien Nous, sûr. On a la chance d'avoir un système par répartition qui déresponsabilise complètement tout le monde. Et parce que, du coup, vous n'avez même pas à vous préoccuper de la façon dont vous allez financer votre retraite. Et c'est quand même assez incroyable. Il y a eu quand même 7 millions... jusqu'à 7 millions de petits actionnaires en France, vous n'en avez plus que 4 millions. Et là, vous avez une enquête
de Doxa
qui vous dit 19% seulement des Français sont prêts à mettre de l'argent dans leurs actions, alors que je vous donne juste un petit calcul. Si vous avez ouvert un livret A en 1990 et que vous y avez mis dessus 1000 euros, ce livret A, aujourd'hui, il vous a rapporté 130 euros. Si vous aviez mis ces 1000 euros dans des actions du CAC 40, vous auriez gagné 1130 euros.
Y compris avec les frais de gestion, Emmanuel ?
Bien sûr que si. La réalité, c'est que la bourse, ça reste le placement qui vous rapporte le plus à long terme. Il y a les accidents auxquels il faut savoir.
Alors juste, non mais attendez, on va répondre à cette question.
Bien sûr.
Donc pour les auditeurs qui là savent que le livret A vraiment c'est du rendement négatif, ça a passé à 0,5, ça ne va pas du tout, on leur dit, bah, allez, regardez tous ces nouveaux produits. Est-ce que finalement Bruno, vous avez dénoncé cette politique, mais Christian Chavagneux, est-ce que finalement Bruno Le Maire, quand on est dans des niveaux de taux comme ça, il n'a pas raison? Est-ce qu'il ne faut pas prendre plus de risques, aller plus... Pourquoi ça serait mal d'aller vers les actions?
C'est pas que c'est mal en principe d'aller chez les actions, c'est juste qu'il faut accepter le fait que si, par exemple, vous développez un système où la capitalisation, les placements financiers vont prendre un peu plus de place, et c'est ce que veut le gouvernement, c'est très flou cette réforme des retraites, puis il y a une chose qui est très claire, c'est qu'on va avoir un socle de base de retraite fondé sur la répartition, comme aujourd'hui, et le reste, le gouvernement dit, débrouillez-vous. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre, avec ma loi Pacte, je viens de développer des nouveaux produits d'épargne pour les comptes d'épargne retraite au sein des entreprises. Et puis sinon, vous pouvez toujours aller vers la capitalisation. Mais on le voit dans tous les pays qui l'ont fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est le gouvernement qui est obligé de mettre la main à la poche pour compenser, parce que c'est extrêmement risqué. Si vous n'avez pas la chance, ou plutôt c'est la malchance d'être l'année où la bourse, où les marchés financiers s'effondrent, eh bien, vous avez tout perdu.
Donc Emmanuel, la bourse, ça rapporte plus, mais les accidents sont quand même...
Non, mais il y a des... Enfin, je veux dire, quand vous investissez, il y a des façons de lisser ces accidents financiers.
Mais ça rapporte moins, du coup. Plus c'est couvert, moins ça rapporte.
Non, mais évidemment, vous n'êtes pas à l'abri d'accidents. Mais la réalité, encore une fois, sur longue période, c'est que si on avait un peu plus chacun investi par capitalisation, vous auriez une retraite qui est plus élevée aujourd'hui. Vous avez par exemple, alors on a cité déjà, on va pas revenir dessus, le chiffre faramineux, un peu exubérant de Patrick Artus.
Complètement
vous
exubérant.
Dit. Voilà, mais vous avez des gens qui ont fait d'autres études, dont c'est le métier, les gens qui font des calculs de retraite, qui ont calculé avec les points Agirc-Arrco, je vais pas rentrer dans le détail, la même somme, en gros vous avez une retraite de 750 euros par la répartition, et vous avez à peu près 930 euros de retraite si vous aviez fait un peu de capitalisation. Dans tous les pays, encore une fois, les meilleurs systèmes de retraite du monde,
c'est le mix.
Il y a un socle répartition pour la solidarité.
L'étude Mercer, qui dit ça, quand vous rentrez dans les critères, c'est juste marqué que vous avez un bon système, vous avez plus de capitalisation. Et donc la conclusion, c'est s'il y a plus de capitalisation, vous avez un bon système. C'est complètement tautologique.
Non, c'est pas ça. C'est que quand vous regardez les meilleurs systèmes du monde,
et en plus,
je veux dire, vous avez plus de capitalisation qu'en France.
Il ne
s'agit pas
de
dire qu'on passe à beaucoup de capitalisation, c'est pas ça l'idée.
Moi,
l'idée, c'est que
question.
Quand vous avez de la capitalisation, ça vous rapporte plus. Mais évidemment, vous êtes pas obligé, hein. Si vous préférez pas gagner d'argent, vous gagnez pas d'argent.
Non, mais est-ce que vous croyez que les 60% de gens qui ont moins de 1500 euros, ils vont aller jouer en bourse avec leur livret A? C'est n'importe quoi, Emmanuel.
Je suis pas du tout d'accord avec cette idée.
Alors allez-y, la bourse, c'est pour tout le monde.
Vous pouvez trouver des placements qui vous rapportent dès que vous mettez de côté quelques euros, ne serait-ce que quelques euros par mois. Il y a des tas de possibilités si vous respectez des règles sur la diversification.
J'ai un dernier point, parce que Bruno Le Maire, il nous dit en fait les Français sont nuls en économie. En fait, il y a une étude de l'OCDE, parce que ça m'énerve d'entendre ça depuis longtemps. Il y a une étude de l'OCDE avec un questionnaire sur les connaissances, les comportements, score maximal possible 21 points, et qui obtient le meilleur score de tout l'OCDE avec 14,9 sur 21, c'est les Français. Donc faut arrêter de nous dire que les Français sont nuls en finance. Ils sont très bons, c'est les meilleurs de l'OCDE.
Emmanuel,
moi j'avais fait l'expérience, on avait fait un grand dossier, nous, quand j'étais à l'expansion, pour comparer effectivement sur la base de cette idée. C'est parce que dire qu'on est nul en économie, ça n'a de sens que si on est plus nul que les autres.
Exactement. Vous voyez,
que les voisins,
vrai.
Etc.
On est même
meilleur. Et en fait, on est plutôt pas mauvais. Par contre, alors on est très très bon sur tout ce qui est macroéconomie, sur tout
non,
ce qui est social,
sur la finance,
etc.
C'est sur la finance,
et moi sur la finance, on était moins.
Voilà, c'est justement sur voir ce que ça peut rapporter ou pas rapporter et les calculs.
Exactement.
Okay. Compris, on n'est pas si mauvais. Nous continuerons cette réflexion la semaine prochaine puisque le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, sera l'invité du Mag Éco. Et pour l'instant, je vous emmène de l'autre côté de la planète. À Pékin, c'est l'heure du goûter.
全球新闻，中国播报。各位好，欢迎收看这一节中国新闻。我们来看详细内容。
Bonjour Dominique André.
Bonjour Alexandra.
Dominique, vous êtes la correspondante de France Inter en Chine, où les entreprises européennes viennent de faire le bilan de 6 ans de route de la soie. Alors qui emprunte ces chemins de conquête du commerce mondial? Qui construit les infrastructures des pays qu'elles traversent? Eh bien les Français, les Allemands, les Italiens qui sont installés en Chine aimeraient bien en profiter, mais ce n'est pas le cas Dominique.
Oui, la Chambre de commerce européenne à Pékin publie un rapport qui prouve avec des chiffres précis que les routes de la soie, c'est avant tout une affaire entre Chinois. Près de 90% des contrats signés sont chinois, seulement 3% concernent des entreprises européennes. Or, on peut rappeler que les routes de la soie, lancées par Xi Jinping en 2013, c'était un projet colossal de construction de routes, de ports ou de lignes de chemin de fer en Asie, en Europe et en Afrique, mais qui était censé relancer la croissance mondiale au bénéfice de tous. En tout cas, c'est comme ça qu'il avait été présenté par le président chinois. Le problème, dit la communauté d'affaires européenne, c'est le manque d'informations et puis des appels d'offres qui ne sont pas transparents du tout. Alors, le gouvernement à Pékin a réagi en affirmant que mais non, les routes de la soie, si complètement internationales, est ouvert à tout le monde. Nicolas Chapuis, l'ambassadeur de l'Union européenne à Pékin, à qui nous avons posé la question, dit clairement qu'il ne s'agit pas d'une opinion de la communauté d'affaires européenne, mais bien d'une réalité qui est prouvée statistiquement. Les entreprises lancent donc un appel à Bruxelles pour relancer la stratégie européenne de connectivité avec l'Asie, qui avait été présentée à l'automne dernier comme une alternative aux routes de la soie chinoise, mais on a du mal à voir sa concrétisation.
Bon, ces entreprises européennes, elles aimeraient faire des affaires avec les routes de la soie et elles sont déçues, on comprend. Mais Dominique, est-ce qu'au fond c'est si grave ?
Oui, parce que les routes de la soie, c'est pas seulement du commerce, c'est le déploiement de la technologie du Made in China 2025 qui est censé faire de la Chine une grande puissance industrielle et technologique, par exemple dans le déploiement des robots, des véhicules électriques ou même des trains rapides. Par exemple, en vendant ces trains rapides, la Chine impose peu à peu ses normes technologiques et le risque, disent les entreprises, c'est que les normes européennes ne puissent plus être les bonnes un jour. La bataille d'influence commence donc et les entreprises européennes demandent à Bruxelles de se réveiller.
Dominique André avec nous depuis Pékin. À venir, dans la prochaine demi-heure, c'est la PDG de Solvay qui va participer à Choose Friends. Vous savez, c'est le sommet des investisseurs étrangers à Versailles. Ce sera juste avant Davos où elle se rendra également. Nous rencontrons Ilham Kadri dans ce studio à 9h45. Mais pour l'instant, retour en France. Nous avons parlé de notre côté fourmi. Maintenant, regardons les consommateurs que nous sommes. C'est samedi, le jour des courses. Alors avec notre reporter Anaëlle Verzo, direction le supermarché, voilà, le chariot, les rayons, et puis enfin, l'arrivée en caisse.
Bonjour madame.
Bonjour.
Je fais un petit reportage pour France Inter.
Oui.
Parce que je vois que dans le magasin, il y a plein de caisses automatiques, et il n'y a pas de caissière à cette heure-ci. Pas visible en tout cas, peut-être qu'elle est là, mais elle doit être en magasin en train d'installer des choses sur les rayons. Et je vois que... Ah, vous êtes sur la caisse automatique, ça fonctionne ou pas?
Alors, je suis sur la caisse automatique, ça fonctionne pas. Et j'ai horreur de passer aux caisses automatiques. Ben voilà, je suis un peu démunie, donc je vais essayer de repayer.
Oui, ça marche pas là.
De garde bancaire pour terminer la transaction.
Ben, on n'a pas le choix, donc ben, j'utilise ces machines, mais c'est compliqué, quoi.
Paiement annulé.
Oh là là.
Paiement annulé. Vous en pensez quoi, vous, monsieur, des caisses automatiques? C'est la première fois que vous utilisez?
Non, c'est plus facile pour moi.
C'est plus facile pour vous?
Oui, c'est plus facile. C'est un peu dur pour la personne âgée, voilà.
Oh, non, je n'ai pas la carte de fidélité.
Vous pensez que c'est amené à se développer, les machines, comme ça?
Oh, ben, ça va se développer, mais ce sont des emplois en moins pour tout un tas de gens. Et je trouve qu'on a besoin de se montrer quand même solidaire, hein, et de faire appel aux hôtesses de caisse pour maintenir leurs emplois, quoi. on en a besoin et là on devient des machines et des robots tous quoi. Garder le côté humain, c'est pas mal aussi.
Merci beaucoup. Votre prénom, c'est comment ?
Isabelle.
Du coup, madame, vous êtes là quand même pour observer, voir si tout se passe bien ?
Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer, surtout le personne âgée. Alors il faut rester là pour aider et tout.
Votre métier, c'est hôtesse de caisse ?
Hôtesse de caisse, oui.
Mais vous n'êtes plus derrière la caisse. En tout cas, à cette heure-là, vous êtes...
C'est très rare. C'est très rare.
Ça fait combien de temps qu'il y a des caisses automatiques dans ce magasin ?
Bah, 3 ans ou 4 ans, je crois.
Et avant, vous étiez combien de caissières ?
Bah, on était 7 caisses.
Et là, il y en a...
7 caisses autant, et puis 3 caisses en caissière, mais c'est jamais on est 3 là-bas. Hein.
Vous n'êtes jamais à 3 derrière la caisse ?
Non, non.
Au mieux, il y a combien d'hôtesses de caisse derrière la caisse ?
Bah, 1 ou 2.
Ah,
voilà. Et oui.
Baisser les coûts, ouvrir tôt le matin, ouvrir le dimanche, ouvrir en soirée, la grande distribution, elle cherche la parade. À quoi ? À la fin de la consommation de masse. Nous achetons de moins en moins de tout. La sobriété est en train de s'installer, elle est obligatoire pour les uns, hein, problème de pouvoir d'achat, elle est choisie pour les autres. Baisse des volumes donc, et jusqu'à présent, les enseignes résistaient grâce au prix. Les Français veulent du plus sain, du plus local, du plus bio, ça se paye. Elles résistaient aussi en multipliant les magasins de proximité. Surtout, ne pas rater la moindre intention d'achat. Mais voilà, en 2020, la grande distribution tire la langue, la crise est sérieuse. Et chez Auchan, aujourd'hui, comme chez les autres hier, on réduit les effectifs.
Vachou Sylvie, donc je suis secrétaire fédérale pour la Fédération Commerce Distribution Service CGT et je suis en charge en particulier de la grande distribution. Moi, ça fait 35 ans que je travaille dans la grande distribution. C'est la première fois, c'est historique dans ce secteur d'activité qu'il y a une succession de plans sociaux tout au long de l'année. Carrefour, il y a eu une suppression de 5000 emplois en 2018-2019. Il y a eu des suppressions d'emplois à Auchan, Cora, Intermarché. Il y a 634 000 salariés. Alors que dans les années 2010, nous étions à 700 000 au niveau de la branche. En sachant que tous les salariés qui sont aujourd'hui en cellule de reclassement font toujours partie des effectifs de la branche grande distribution, donc nous aurons vraiment les chiffres réels de suppression d'emplois en 2021. Ils n'ont rien anticipé, voilà. Ils le savent depuis 15-20 ans qu'effectivement, il y aurait une mutation technologique dans nos secteurs et ils n'ont rien anticipé. Et on ne voit rien venir en termes d'émergence de nouveaux métiers, on ne voit rien venir. Quelles sont les formations qu'on leur propose ? Quels sont les reclassements qu'on peut leur proposer ? On le sait que le métier va se tourner vers le conseil vente. Mais pour l'instant, ils sont dans le cadre de PSE, mais en aucun cas de reclassement ou de formation de ces caissières, de ces ex-caissières qui demain vont faire quoi ? Alors on sait que dans certaines régions, Pôle emploi propose gentiment aux caissières de justement d'Auchan de se reconvertir dans l'aide à domicile, sauf que sous prétexte qu'elles passaient des personnes âgées à leur caisse, enfin quand on y pense, c'est ubuesque.
Vous étiez en contact avec des personnes âgées, donc allons-y.
Donc voilà, vous pouvez très bien demain être à l'aide à domicile, vous occuper, faire de la gériatrie, sauf que ça demande une qualification, on est en train de baisser, mais y compris tous les secteurs dits féminisés vers le bas, quoi. Non, il y a beaucoup d'arrêts maladie pour dépression, burn-out. C'est quand même assez récurrent hein, dans nos secteurs. Parce qu'on leur a dit, il va falloir travailler le dimanche si vous voulez remonter le magasin. Ils bossent le dimanche. On leur a dit, il va falloir travailler plus tard le soir si vous voulez que le magasin remonte en chiffre d'affaires. Ils le font. Ils sacrifient pratiquement tout. Puis un beau jour, on leur dit, tant pis, on va quand même vous vendre, on va carrément fermer le magasin. Mais psychologiquement, c'est d'une violence extrême.
Alors, est-ce que les enseignes de la grande distribution ont foncé dans le mur sans anticiper ? Leur porte-parole, le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution, Jacques Cressel, raconte une autre histoire. On vous fait parfois le reproche de ne pas avoir assez anticipé. Ça fait 15-20 ans qu'on sait, qu'on connaît les évolutions à venir, notamment dans les comportements des consommateurs qui évoluent. Qu'est-ce que vous nous dites sur l'anticipation, ce problème d'anticipation ?
Je crois que c'est un reproche qui est vraiment mauvais parce que il y a au contraire des évolutions dans le commerce. Tous les distributeurs aujourd'hui sont en même temps des e-commerçants. Vous prenez les Fnac Darty, vous prenez Casino avec ses discounts, vous prenez Carrefour, tout le monde a du e-commerce. Mais on sait ce qui peut se passer, mais on ne connaît ni le rythme ni l'ampleur. Il y a de l'ordre de 5 à 10% des emplois d'hôtesse de caisse, qui sont environ 150 000, hein, qui ont été remplacés ces dernières années. Et donc, il y a une redéfinition des postes.
Donc, il y a des reclassements, du coup, qui sont
exactement
prévus.
Le sujet, c'est comment on fait pour aller vers de la formation, y compris hors du commerce, par exemple tout le secteur des services à la personne. Nous travaillons avec eux pour voir si une partie des emplois qui éventuellement pourraient disparaître dans les prochaines années ne pourraient pas être requalifiés dans ces emplois, dans les services notamment du côté social ou autre, où il y a besoin de qualifications de même type.
Des hôtesses de caisse qui deviendraient aide à la personne pour personnes âgées, par exemple, c'est ce genre
exactement,
de choses que...
Exactement, ça fait partie des choses qui sont en train d'être... D'ailleurs, il y a eu un rapport récent fait par l'ancienne ministre du Travail, Myriam El-Khomri, qui a proposé ça au gouvernement.
Vous croyez en l'avenir de la grande distribution telle qu'elle est...
Je crois totalement à l'avenir de la grande distribution, parce qu'elle est en train de se moderniser de façon absolument extraordinaire.
Oui, c'est Anaëlle Verzeau, journaliste à France Inter.
Merci. Pour le moment, les enseignes n'ont pas trouvé la recette magique. Et aujourd'hui, ce sont les géants, les hypermarchés, qui sont le plus touchés. Yves Puget est le directeur de la rédaction du magazine de la grande consommation, LSA.
Il y a des difficultés pour toutes les enseignes. Il y a des difficultés tout simplement dues à l'embourgeoisement de ces enseignes. Ils n'ont certainement pas assez investi dans l'outil de travail qu'est le magasin. Et après, les difficultés viennent de nouvelles concurrences, l'e-commerce par exemple, mais aussi des enseignes spécialisées comme Grand Frais, comme Picard, comme Kiabi, comme Boulanger qui marchent très bien. Et puis viennent aussi des changements des consommateurs qui zappent de plus en plus, qui font de plus en plus d'arbitrage. Donc oui, les hypermarchés sont certainement à un tournant et il faudra regarder s'ils arrivent à prendre ce tournant de manière sereine ou s'ils vont dans le mur, comme disent certains.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même eu un problème d'anticipation de la part de la grande distribution ?
Alors, je commençais par botter en touche et en disant que le problème, il est mondial. Vous rencontrez le même problème dans tous les pays du monde. Donc, ce n'est pas propre aux distributeurs français. Walmart a connu ce problème-là également, qui est le leader mondial, qui est un groupe américain. Une fois qu'on a dit ça, oui, je pense qu'ils n'ont pas assez investi dans les magasins dans les années 90. Oui, il y a eu un problème d'investissement et de choix stratégiques. Et après, oui, quand vous êtes bien dominant sur votre secteur, il y a un phénomène d'embourgeoisement et d'endormissement. Ils ont manqué de réactivité. Mais encore une fois, le phénomène est mondiale.
Alors dans l'histoire de la grande distribution, il n'y a jamais eu une crise comme celle que la grande distribution traverse en ce moment. Est-ce que selon vous, c'est irréversible ?
Alors je dis souvent que les formats ne meurent jamais, mais que les enseignes peuvent disparaître. Donc ça ne veut pas dire que toutes les enseignes, hélas, vont rester telles quelles. Mais je pense que le format va rester, mais à condition d'évoluer. Finalement, qu'est-ce qui va faire que l'hypermarché pourra résister face à l'e-commerce ? Il y a bien des produits qu'on a besoin de voir et de toucher et d'acheter.
Et la situation se complique encore avec la nouvelle concurrence de la grande distribution. L'alimentaire intéresse beaucoup les GAFA, les géants du numérique américains. Le fondateur de l'Observatoire Société et Consommation, Philippe Moati, étudie les évolutions de la grande distribution depuis 20 ans.
Ce qui est en train de se profiler, c'est qu'un acteur comme Amazon s'intéresse beaucoup à l'alimentaire, et pas à l'alimentaire drive, à l'alimentaire livré à domicile. Donc il est tout à fait possible aussi que dans les prochaines années, on assiste à une offensive des géants du numérique sur l'alimentaire et qui viennent désarçonner nos acteurs de la grande distribution sur leur cœur de marché. Et derrière ça, il y a quelque chose d'encore plus fondamental qui est en train d'émerger, c'est que les acteurs du numérique, les géants, Amazon, mais aussi Google et en Chine Alibaba, sont en train de s'imposer comme des intermédiaires, des nouveaux intermédiaires, notamment avec leur place de marché. Donc il faut faire très très attention à ça. Si nos distributeurs ne comprennent pas ce mouvement historique vers la plateformisation du commerce, ils risquent demain matin de se retrouver dans la position de leurs fournisseurs aujourd'hui. On voit bien ce que c'est, hein. Les grandes marques sont obligées de passer par les linéaires de la grande distribution pour accéder aux consommateurs. Et vous voyez comment la grande distribution leur fait payer cher l'emplacement sur leur linéaire. Et bien, s'ils ne font pas attention, demain, c'est eux qui devront payer les géants du numérique pour pouvoir s'adresser par leur intermédiaire aux consommateurs.
Grande distribution, le changement de modèle dans la douleur. C'était le reportage d'Anaëlle Verzeau.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et les produits que fabrique notre invité, nous ne les achetons pas au supermarché, mais on les y trouve dans nos shampoings et peut-être dans nos gâteaux, hein, avec la vanilline industrielle. Ils sont aussi dans nos voitures, dans nos smartphones. La PDG du chimiste Solvay est dans ce studio. Bonjour Ilham Kadri.
Bonjour Alexandra.
Solvay, 24 000 salariés dans le monde, 3 700 en France, c'est pas étonnant, il y a de l'ADN Rhône-Poulenc, Rhodia, c'est l'une des entreprises belges les plus françaises. Cependant, lundi, c'est bien en tant qu'investisseur étranger que vous allez être reçu à Versailles pour le salon Choose France, l'opération séduction hein, du gouvernement pour les investisseurs étrangers. Les baromètres nous disent que nous sommes premiers, la France est première pour les investissements industriels. Qu'est-ce que ça dit de notre pays ? Pourquoi on s'installe quand on est industriel en France ?
Ben, merci de m'avoir d'ailleurs, de m'accueillir. Oui, c'est mon premier Choose France, donc c'est un prêt Davos. Nous avons déjà choisi la France. Hein. Solvay est installé, comme vous l'avez bien dit, 3740 collaborateurs, 13 sites industriels. Nous avons 6 centres de recherche. Alors, les investisseurs aiment la France parce qu'il y a les talents d'abord, c'est à propos de l'humain. 6 centres de recherche pour Solvay, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bons talents. On a des chercheurs, des doctorants, de l'innovation, de l'ingénuité. Bien sûr, supporté par l'État avec des crédits recherche impôts qui font que la France y a de la compétitivité. 13 sites industriels, donc bien sûr nous avons, comme vous l'avez bien dit, un historique Rand Poulain qui est là. Mais alors il faut continuer, il faut que la France, comme d'autres États, se batte pour cette compétitivité.
Alors ça veut dire quoi dans la tête d'une industrielle quand vous dites ça?
Alors c'est, bien sûr, c'est l'accès aux talents, c'est comment on peut fabriquer un tissu industriel qui est cohérent, hein, qui peut nous permettre de travailler et de fournir les consommateurs français, mais aussi le non-français, donc l'export-import, d'avoir des supports pour l'énergie, hein, le changement climatique dont on parle beaucoup, et les supports de changement, comment dire, de notre fourniture énergétique sont très importants. Et ça, c'est un travail commun entre les États et les industriels que nous sommes.
Ce que nous disent aussi les baromètres, Ilham Kadri, c'est que finalement les mouvements sociaux, hein, là on a la protestation contre la réforme des retraites, on a eu il y a un an les gilets jaunes, ça n'écorne pas l'image de la France à l'étranger. Vous qui voyagez énormément, est-ce que c'est aussi ce que vous percevez?
Ben, je pense que ces mouvements sociaux sont probablement internationaux et globaux aujourd'hui. Hein. C'est pas qu'en France que ça arrive. Hein. Que ça soit en Hong Kong, on a eu des tensions plus que sociales, aussi économiques. Donc c'est un mal mondial. Et je pense qu'à Davos aussi, on va parler beaucoup de la cohésion, du support, des inégalités. Et il y a un rôle des États, mais il y a un rôle industriel. C'est comment nous, non seulement avec nos employés, on a une charte sociale et on a un dialogue social à l'intérieur de nos sociétés, mais comment on travaille avec les communautés dans lesquelles on concerne et avec lesquelles on est des voisins.
Davos, vous y serez mardi. On y va pour réfléchir. Là, vous parlez en effet de l'inclusion, du développement durable. On y va pour réfléchir à Davos ou on y va pour faire des affaires?
Bah moi, c'est ma première fois en CEO, donc j'y vais pour écouter.
PDG CEO.
PDG CEO, oui. J'y vais pour écouter, pour partager. Je rencontre mes clients. Hein. Il y a tous les patrons qui sont là. Je rencontre des membres d'État. On va parler de l'économie circulaire. Je rencontre des NGO, que ce soit Bertrand Piccard avec le Solar Impulse qui a fait le tour du monde avec l'énergie solaire et pas une goutte de kérosène. Hélène MacArthur qui est en train de bâtir les fondamentaux de l'économie circulaire. Donc voilà, c'est...
Mais vous croyez que ça fait de l'action derrière? C'est-à-dire, on dit souvent à Davos, les patrons prennent des grands engagements et puis finalement, la planète tourne toujours dans le même sens.
Bah, la planète est là et elle est probablement en faillite d'un point de vue ressources, comme Kofi Annan disait, elle nous est donnée en prêt et on doit la rendre meilleure à nos enfants. Donc après, chaque société fait de ça ce qu'elle veut. Chez nous, chez Solvay, on va lancer dans quelques semaines notre stratégie qui va s'appeler Solvay One Planet, qui va être beaucoup plus ambitieuse sur les émissions CO2, sur la protection des ressources, que ce soit l'eau, l'énergie, le papier, et sur une meilleure vie. Donc voilà, après chacun fait ses choix.
Qu'est-ce qui vous... Vous êtes justement un chimiste, hein, et l'industrie est particulièrement décriée, en effet. Elle est source de 20%, si mes souvenirs sont bons, des émissions de gaz à effet de serre. Chez Solvay, qu'est-ce qui vous pousse le plus? Est-ce que c'est la prise de conscience? Est-ce que ce sont les investisseurs? Est-ce que ce sont les actionnaires?
Oui. Non, c'est une très bonne question. Premièrement, l'industrie chimique en général et beaucoup d'industries on fait partie du problème, mais font partie aussi de la solution. Il faut pas être angélique. Hein. Notre fondateur Ernest Solvay avait dit, hein, en 1850, que de la science dérive le progrès de l'humanité. Et aujourd'hui, on vient de lancer notre raison d'être la semaine dernière, donc après le nouvel an, et on a dit qu'on allait réinventer le progrès, le libérer autrement. Donc, il faut amener des technologies qui sont plus propres. D'ailleurs, on n'a plus le choix, parce que nos enfants nous le disent. Moi, quand je vais au bureau, je ne suis pas seulement la PDG de Solvay, je suis aussi la mère d'un jeune adolescent à qui je veux laisser une planète plus propre que celle que j'ai héritée.
Mais ce que vous... Alors, vous dites la science est la solution, elle fait partie du problème. En effet, mais on voit bien la difficulté, on imagine en tout cas. Solvay, ça fait de la vanilline de industrielle, en effet, mais ça fait aussi des produits chimiques qui vont servir à la fracturation hydraulique pour extraire le pétrole et le gaz de schiste. Donc, comment on résout cette équation? Est-ce qu'il va falloir faire des choix drastiques? risques, abandonner certaines activités. Est-ce que c'est comme ça que vous pensez?
Je pense que un PDG et un comité d'exécution d'exécutif d'une société, c'est à propos de faire une stratégie et de faire des choix. Alors faire des choix de ce qu'on va faire, de ce qu'on va pas faire. Donc on a lancé notre stratégie au mois de novembre de l'année dernière. Et bon, mondialement, de toute façon, moi, ma conviction personnel, c'est qu'il y aura un virage de ce monde fossile qui vous entoure aujourd'hui. Alors, vous le voyez dans la voiture électrique. Nous sommes dans votre batterie, que ce soit une voiture à moteur hybride ou dans les voitures à batterie électrique, il y a les produits de Solvay. Donc voilà, je pense que ce mouvement est en cours, il va s'accélérer. Nous, on est en amont, en aval. Par exemple, dans
il va falloir faire des choix, c'est ça que vous êtes en train de dire ça.
Il va falloir faire des choix, et c'est des choix que se posent à tous les patrons de sociétés. Dans quel portfolio vous voulez investir, où voulez vous désinvestir, etc. Chez Solvay, on est en mutation permanente. Les 10 dernières années, on a beaucoup désinvesti dans les polymères qu'on appelle de commodité. Que ce soit le PVC, le polyoléphine, tout ça. On est dans les polymères de pointe. Vous nous trouvez dans les ailes des avions ou dans les batteries. On rend les voitures plus légères, les avions plus légers.
Bon, problème et solution, en effet, la chimie.
Et c'est plus que la matière, c'est à propos de la solution et de la solution avec un cycle de vie, avec son impact, du berceau à la tombe, comme on dit en science.
Ilham Kadri, à Versailles comme à Davos, les femmes PDG, elles ne sont pas légion, elles ne sont pas majoritaires. Alors vous l'êtes PDG, à quoi ça tient de briser le plafond de verre le plus haut dans une entreprise ?
On est une anecdote. Je suis une anecdote aujourd'hui dans le monde global féminin. La France et d'autres, on a beaucoup fait, alors quota ou pas, pour féminiser les conseils d'administration. Mais bien sûr, en PDG et aux têtes de société, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai.
Est-ce qu'il faut des quotas ? C'est ça la question.
Ouais, moi, j'ai...
Est-ce qu'il faut des quotas ? Je précise ma question. Oui. Faut-il, comme pour les conseils d'administration, où ça a vraiment fait bouger les choses, des quotas pour les instances de direction ?
Moi, d'abord, la méritocratie. Donc, en businesswoman, en patronne que je suis, je dis d'abord la méritocratie. Et je ne pense pas qu'un conseil d'administration choisit une femme PDG parce qu'elle est une femme. C'est, vous le savez, on le sait tous. Et d'ailleurs, ça ne serait pas rendre service à la cause féminine de le faire. Je pense que la diversité et l'inclusion, c'est vrai que le genre, c'est un, et c'est au-delà de ça. C'est la diversité des pensées, c'est la diversité des nationalités, des religions, des orientations. Et ça, c'est important. Et quand la diversité est là, d'ailleurs, il faut l'écouter. Parce que si vous ne l'écoutez pas, elle part, elle vous quitte. Donc oui, féminiser, c'est important. Moi, en businesswoman, je ne peux pas négliger 50% de la population mondiale.
Mais alors, quota ou pas ? Je voudrais juste cette réponse. Quota ou pas ?
Je pense qu'il faut fabriquer un pipeline comme on le fait de façon pragmatique, c'est-à-dire quand on a un job qui est un job de senior ou senior chez nous, ou d'exécutif, on demande un candidat de diversité dans la shortlist des 3 candidats qui vont être interviewés à la finale. Donc, on pousse pour qu'il y ait de la diversité, quelle que soit cette diversité encore. Et bien sûr, aujourd'hui, je pense que quand je donnerai le flambeau et que je laisserai cette société en héritage à quelqu'un d'autre, j'espère qu'il dira, elle m'a laissé un pipeline de jeunes femmes dans la société qui sont prêtes pour prendre le grand job.
Donc, pas de quota, ça que je comprends, mais plutôt un processus. Ilham Kadri, on va dire un mot quand même de vous êtes franco-marocaine, vous êtes d'origine modeste, vous dites que l'électricité est arrivée chez vous au Maroc avant l'eau courante, c'est ça?
Avant l'eau.
Comment est-ce que on brise non pas seulement le plafond de verre du genre, mais les autres? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a une réponse simple?
Après, moi, bon, il faut une raison d'être. Elle est nourrie par probablement l'éducation des parents et par le lieu où vous avez grandi. Moi, c'était l'éducation. C'était l'éducation d'abord. C'était la troisième voie qui pour moi m'a donné la liberté de penser, de choisir mon métier, de choisir avec qui je vais me marier, ma foi. Donc voilà, ça, cette éducation a été la porte. Et ensuite, vraiment, c'est des vraies convictions, que ce soit le développement durable, à commencer à la maison. Ma grand-mère disait, on n'a pas le luxe de gaspiller. Donc voilà, après, il y a des convictions qui vous accompagnent tout au long de votre vie.
Ilham Kadri, la PDG de Solvay, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci beaucoup.
Ma vie au boulot avec Sandrine Foulon, à qui Valentine, qui a 32 ans, a écrit. Alors Sandrine, Valentine, elle a retrouvé un travail comme intérimaire, mais elle a connu des périodes de chômage. Pour elle, la réforme à points, vous demande-t-elle, est-ce que ça sera mieux ou moins bien ?
Valentine, si vous avez envie de lire l'avant-projet de loi ce week-end, faut aller directement à la page 30. Le document défend une avancée majeure, une dimension solidaire, une meilleure redistribution vers les chômeurs les moins indemnisés. Franchement, d'un coup, ça redonne le moral. Évidemment, tout de suite, ça critique, ça va être une nouvelle tuerie, pour reprendre la formule de Laurent Berger parlant du décret sur l'assurance chômage. Mais c'est vrai que la réforme à points pourrait aussi faire très mal. C'est ce que craignent les syndicats et les associations d'aide aux chômeurs. Aujourd'hui, quand on est au chômage, ça compte pour la retraite. On valide des trimestres et on obtient des points de retraite complémentaires Agirc-Arrco sur la base du salaire antérieur à la période de chômage. Demain, le calcul se fera sur l'indemnité chômage, qui est forcément plus faible que le salaire. Ce qui n'est pas rassurant, Valentine, c'est qu'en plus, au 1er avril, les règles de l'assurance chômage vont encore se durcir, surtout pour ceux qui alternent petits contrats et chômage. L'UNEDIC estime qu'un allocataire indemnisé sur deux, plus d'un million de personnes, sera pénalisé. À terme, ce n'est pas terrible pour le niveau de la pension, surtout si on compte toute la carrière et plus les 25 meilleures années.
Mais là, Sandrine, vous parlez des chômeurs qui touchent une allocation. Comment ça va se passer pour ceux qui ne sont pas indemnisés ?
Pas beaucoup mieux. Actuellement, quand on est en fin de droit, qu'on ne reçoit plus rien de l'UNEDIC, mais qu'on touche l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, on valide aussi des trimestres et on peut aussi acquérir des points Agirc-Arrco grâce à ses salaires précédents. Avec la réforme à points, un chômeur en fin de droit cotisera sur la base de l'ASS, c'est-à-dire 500 euros par mois. Ça fera des petits points. Et puis oui, il y a tous les demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi, mais qui ne touchent rien. Alors aujourd'hui, c'est vrai, les périodes de chômage non indemnisées ne donnent pas droit à grand-chose pour la retraite, mais il est quand même possible, sous certaines conditions, de valider quelques trimestres. Avec la retraite universelle, ce sera rien, pas d'indemnité, pas de points. Enfin, il y a les seniors au chômage, ils sont nombreux, qui sont proches de la retraite. Ils peuvent toucher leur allocation jusqu'à 62 ans. Mais comment feront-ils si un âge d'équilibre introduit une décote pour qu'ils prennent leur retraite plus tard ? Valentine, vous avez encore quelques années pour étudier la question, mais on vous souhaite, surtout en ce début d'année, d'éviter le plus possible la case chômage.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.